Je ne crois pas qu'on soit alcoolique en France.
Chronique, là, il y a toujours une bonne bouteille sur la table, ça c'est évident.
Revue de presse.
C'est pas pour ça qu'on est alcoolique.
Invité du jour.
Et puis la bière, ce n'est pas mauvais pour la santé.
C'est tout de suite dans l'Happy Hour.
Happy Hour. Happy Hour.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue, c'est l'heure de l'émission Happy Hour. Alors ça y est, le printemps est arrivé, bon, il n'y a pas encore vraiment le temps avec, hein, il fait encore beaucoup, beaucoup gris, mais c'est pas grave, c'est le moment des apéros tout de même, enfin, les bières, les chips, on est toujours à l'eau ici, on s'emballe pas, attention. Et puis, dans cette émission, pour fêter le printemps, on va dire, on va parler sport, on va parler foot, et plus particulièrement d'un anniversaire, ouais, les 100 ans du foot à Mende. Alors pour passer un beau moment, je suis avec Cyril, salut.
Salut.
Et puis Eric, qui n'est pas présent physiquement, mais vous inquiétez pas, il a quand même préparé une chronique. Vous pourrez entendre sa douce voix. Et pour parler sport et du club mandois, le président Vladimir Petkovic, bonjour.
Bonjour à tous.
Et puis avec nous aussi, Christophe Boyer, bonjour.
Bonjour à tous.
Secrétaire général, c'est ça, du club?
C'est ça.
Ok, je ne me suis pas trompée. Alors, avant de s'intéresser à l'événement, parce que vous faites un grand événement sur 3 jours pour l'événement des 100 ans du foot à Mende, on va présenter le club et puis sa saison et puis l'histoire aussi, évidemment, du club. Vladimir, est-ce que tu peux nous présenter? D'abord, ça fait combien de temps que toi, tu es à la tête en tant que président?
C'est ma deuxième saison, là, cette année, à la tête du club. Donc, l'année dernière, j'étais en coprésidence avec Daniel Tessier. Et donc cette année, donc depuis l'Assemblée Générale du mois de juin dernier, donc à la tête du club tout seul sur la présidence et avec un comité directeur de 9, qui comporte 9 membres.
9 membres, d'accord. Et Christophe, du coup, tu es secrétaire général, c'est ça, depuis combien de temps?
Depuis combien de temps? Je n'ai pas la date exacte.
Mais... Ça fait un moment.
Non, ça fait une dizaine d'années, je dirais.
D'accord. Et tu as fait d'autres postes que secrétaire?
Moi, à l'époque, j'étais joueur de l'EVM en doigt, mais quand l'AFL, à titre personnel, quand l'AFL s'est créé, j'étais pas sur Mende, j'étais à Paris pour mon travail. Donc, je suis revenu sur Mende juste après la création de l'AFL. Donc, j'ai intégré en tant que bénévole l'association, normalement. Et voilà.
D'accord. Alors, il y a combien de joueurs en tout? Vous comptez combien d'adhérents au club?
Alors, de joueurs exactement, je ne saurais pas te dire exactement, mais on est grosso modo à 400 licenciés.
D'accord, 400 licenciés.
400 licenciés, dirigeants.
D'accord, ok.
Joueurs.
On va parler du coup des 100 ans, de cette histoire un peu emblématique du foot à Mende. Christophe, tu es venu aussi parce que tu es un peu le spécialiste de l'histoire. Est-ce que tu peux... On peut revenir en arrière en 1920 parce qu'il y a la création en fait importante d'un club en particulier, c'est ça? À Mende.
C'est ça, donc en 1920, le 30 août 1920 exactement, l'éveil mandois a été créé par le président de l'époque qui s'appelait Monsieur Henri Chaptal, qui était imprimeur à Mende. Voilà, donc le premier siège social en fait était au 10 rue Notre-Dame, qui était l'adresse de son entreprise. Voilà, donc ils ont monté le club avec plusieurs bénévoles. Voilà. Donc c'est à ce moment-là que c'est vraiment lancé le football dans notre ville de Mende.
À cette époque, en Lozère, il y a déjà pas mal de clubs de foot, non? Ou c'est récent?
Non, c'est le premier club,
c'est
en
premier.
Fait. C'est
d'accord.
Le premier club, par contre, juste après 1921-1922, d'autres clubs sont apparus un peu partout en Lozère.
Ok. Alors, où est-ce que s'entraînaient les joueurs au départ? Parce que je suppose que c'était pas à Paris.
On ne sait pas s'il y avait des entraînements. On suppose que c'était directement les rencontres, hein, parce
d'accord.
qu'ils n'avaient pas beaucoup de temps, j'imagine, et,
oui.
et pas beaucoup accès au terrain, donc le premier terrain qui était Place du Forêt.
Place du Forêt, d'accord, ok. Et comment on fait pour justement avoir toutes ces archives, connaître toute cette histoire du foot à Mende? Comment tu t'es documenté? Ça s'est passé comment?
En fait, on s'est beaucoup servi d'un livre qui avait été fait précédemment pour les 80 ans de l'éveil mandois par Didier Jacques, voilà, qui avait fait un livre donc déjà qui à l'époque avait fait un gros travail de recherche. Et donc tous ces documents, il me les avait transmis. Et donc voilà, après, avec Bernard Vanel, on a un peu fouillé aux archives départementales, aux archives municipales, des documents divers à droite et à gauche de licenciés, de personnes qui avaient pu récupérer des documents, des photos à droite et à gauche.
D'accord. Alors, 1920, c'est la création du premier club, mais ensuite, il y a une fusion, bon, beaucoup plus tard, qui se fait, c'est ça, pour créer l'Avenir Foot Lozère.
Oui, ben, disons qu'en 2004, l'Éveil Mandois a eu quelques petits soucis financiers. À côté, de l'autre côté de la vallée, il y avait le club de la SCV Valdonnès qui jouait quasiment au même niveau, une division d'écart, je crois qu'il y avait à l'époque. Voilà, donc du coup, les deux clubs à cette époque-là avaient, plutôt que de se faire concurrence, avaient plutôt décidé de s'associer. Mmh. Et c'est à ce moment-là qu'est né donc l'Avenir Foot Lozère.
Est-ce que quel est ton premier souvenir, toi, Vladimir, avec ce club?
Alors l'Avenir Foot Lozère ou l'Éveil Mandois?
Allez, les deux.
Allez, ben, j'ai envie de te dire que mon premier souvenir avec l'Éveil Mandois, c'est mes premières années de football, donc il y a 30 ans maintenant, j'avais 4 ans et demi. C'est un club qui compte beaucoup pour moi, puisqu'il a permis à mes parents de venir s'installer en France, hein, et de vivre la vie qu'on vit aujourd'hui. Mon premier souvenir en tant que joueur, c'est le tournoi de Pentecôte, qui se transforme maintenant en AFL Cup, mais c'est vraiment, vraiment de très, très, très bons souvenirs.
Donc toi, tu as découvert aussi le territoire par le foot, au final?
Oui, clairement. On est venu s'installer en 91, on est arrivé en France, et en fin 91, tout début 92, on s'est installé en Lozère, donc, parce que le club de l'Éveil Mandois avait recruté mon papa, donc... Toute la famille est venue s'installer ici et l'histoire a commencé là.
D'accord. Et qu'est-ce qu'il faisait donc ton père au club ?
Il était joueur. Il est arrivé pour jouer. Puis il a un petit peu entraîné les juniors à l'époque. Ça s'appelait. Je ne sais pas si Coco, tu étais junior à l'époque ou pas.
Mais... Si, voilà. Je l'ai été.
donc un petit peu joueur, puis un petit peu éducateur sur les catégories un petit peu plus jeunes. Puis, moi, mes parents, quand ils sont arrivés, ils ne parlaient pas un mot de français. Hein, donc, c'était bonjour monsieur, bonjour madame, merci, au revoir. Et c'est vrai que le foot a été facteur d'intégration, vraiment.
Et toi, Christophe, ton premier souvenir, du coup, c'est aussi avec l'Éveil, je suppose. Quels sont tes premiers souvenirs et tes premiers moments avec le foot à Bande?
Moi, en fait, j'ai commencé, je crois que j'avais 6 ou 7 ans à l'école de foot. Hein, donc, à l'école de foot qui, à l'époque, était gérée par Guy Galibert, qui est un dirigeant emblématique de ces années-là, qui avait réussi à monter une école de foot. L'école de foot a commencé en 1970 à Mende, et donc elle avait commencé un peu à Mirandole, mais il n'y avait qu'un seul terrain à l'époque, donc toutes les équipes ne pouvaient pas l'utiliser. Donc à ce moment-là, il avait réussi à trouver un terrain à la zone artisanale de Gardez aujourd'hui. Donc en fait, tous les terrains de l'école de foot à l'époque étaient à Gardez, donc à l'emplacement de l'entreprise Alic actuellement.
D'accord.
Donc moi, mes souvenirs d'enfance, c'est là, quoi. On a découvert le foot à Gardez, on a des souvenirs assez... qui restent vraiment frais à mémoire, parce que c'était quand même un site un peu atypique. On se rappelle qu'il y avait un gros arbre au bord du terrain, donc des fois le ballon, il touchait les branches, enfin moi... C'était un peu... Il y avait trois terrains, en fait. Il y en avait un qui était un peu sur la partie plate. Il y en avait un dessous qui était au bord du Lot, qui lui était souvent inondé et souvent aussi occupé par les gens du voyage, en fait. Donc souvent, on ne pouvait pas l'utiliser. Et après, ils en avaient fait un troisième qui était plus en pente. Donc c'était vraiment un terrain complètement penché. Voilà, c'est assez rigolo, quoi.
Tu rigoles, Vladimir? Ça te fait penser... Enfin, t'as des souvenirs en écoutant ça?
Ouais, alors moi j'ai connu Mirandole quand j'étais tout petit, et ça nous faisait rire, parce que Mirandole, c'est pas le plus joli terrain qu'il y a aujourd'hui à Mende. Ce qui me fait sourire, c'est quand je vois Coco faire les gestes du terrain pentu. Moi, ça me renvoie à nos jeunes années de tournoi de Sixte sur les périodes estivales. J'ai pas connu dans le cadre du club et du foot licencié des terrains comme ça, mais c'est bien, parce qu'on voit l'évolution qu'il y a eu sur les dernières décennies, ne serait-ce que sur les infrastructures. Quoi.
Alors justement, oui, tu voulais dire, Christophe?
Non, j'ai juste une petite anecdote, mais l'école de foot à cette époque, donc c'était M. Galibert, c'était vraiment un personnage, et c'était vraiment le début, et tous les enfants n'avaient pas de chaussures de foot, ni de chaussettes. Donc souvent, il arrivait toujours avec sa voiture, il avait une grosse caisse, alors ceux qui n'avaient pas de chaussures allaient se servir. C'est vraiment, on n'imagine plus aujourd'hui que ça puisse se passer comme ça. Mais... Et des fois, il repartait chez lui parce qu'il y en avait qui n'avaient pas de chaussures, qui n'avaient pas la bonne taille. Enfin, moi, c'était assez beau.
Il aidait à s'équiper en plus, quoi.
Tout à fait, il faisait tout.
Mais est-ce que, justement, pour ceux qui ne connaissent pas ce personnage, qui est quand même emblématique pour ce club-là, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu donc de cet entraîneur, enfin qui faisait tout d'ailleurs.
Guy Galibert, en fait, lui, s'est vraiment occupé de l'école de foot pendant de 70 à, je dirais, les années 95. Hein. Il est malheureusement décédé il y a une paire d'années. Et justement, donc, on l'avait rencontré un peu au moment de la création du livre avec Bernard Vanel. Voilà, et malheureusement, il devait nous essayer de nous trouver des documents de cette époque, mais malheureusement, il est décédé juste après, donc on n'a pas réussi à avoir ces documents-là. Mais c'était vraiment c'était un passionné, en fait, passionné qui aimait les enfants et il faisait tout pour eux, en fait. C'était vraiment, c'était un peu un second père pour tous les gamins de Mende qui ont appris le foot.
Justement, en parlant de toute cette évolution du foot et tout ça, donc le livre qui est sorti en 2020 pour donc vraiment les 100 ans du foot à Mende, avec Bernard Vanel qui fait partie aussi toujours du club, enfin,
oui, tout à fait. Ouais,
et qui fait énorme, qui écrit aussi des livres à côté. Comment, qui a eu l'idée en fait de faire ce livre sur les 100 ans?
Bah en fait, c'est un petit peu moi qui ai eu l'idée. Donc, parce que moi, je me souvenais donc, du livre justement qu'avait fait Didier Schack sur les 80 ans. Et c'est vrai que, tant qu'ancien joueur, on a souvent, des fois, on se disait, on se remémore des moments, on se disait, je me rappelle, il y avait une photo, qui c'est qu'il y avait. Je me suis souvent référé à ce livre. Donc, je me disais, ça serait bien pour les 100 ans du foot à Mende qu'on arrive à faire. Un livre, mais qui reprenne plus, parce que le livre de 80 ans était que sur l'événement d'Oie, donc là on a plutôt décidé de faire un livre autour de tous les clubs qui avaient existé à Mende. Voilà, donc j'avais sollicité Bernard, je crois plus un an et demi, voire deux ans avant, en 2018, pour savoir si éventuellement l'idée l'intéressait. Voilà, donc voilà, il ne m'aurait pas dit oui, ce livre n'aurait jamais vu le jour, voilà, heureusement. Et il m'a dit oui, donc du coup, ça a été un travail quand même assez long parce qu'on avait attaqué un an et demi avant à récupérer des documents. Et,
voilà. Alors qu'est-ce qu'on se trouve du coup dans ce livre? Il y a des photos, des images d'archives et tout ça, il y a aussi du texte. Comment il se présente
ça? Il y a un petit peu tout, en fait. Donc il y a un peu l'historique donc, des différents clubs à Mende. Sachant qu'il y en a eu 13 ou 14, le chiffre est un peu vague, mais bon, l'événement d'Oie était né en 1920, mais il y a eu de suite, en 1922, il y a eu un autre club qui s'appelait l'Étoile Sportive Mendoise. Après, il y a eu la Société Jeanne d'Arc, qui était a priori un club d'une école privée, on imagine, voilà, qui est apparu aussi en 1922. Voilà, donc il y a eu différents clubs après, le Stade Universitaire Mendois, le Mende Université Club, la SPTT, le Mende Gévaudan Club.
Ah oui.
Il y a eu le Football Club de Mende, le Sporting Club de Mende, l'Association Sportive Mendoise, l'Olympique de Mende, l'AS Portugais. Et aujourd'hui, donc, il en reste deux, l'Avenir Foot Lozère et l'autre club de Mendois, l'AS Génération Foot Mendois.
D'accord, ah oui, donc ça fait pas mal quand même depuis 1920.
Donc c'est un livre voilà, qui reprend un peu l'histoire donc, de ces différents clubs. Mais qui reprend aussi l'histoire des différents terrains à Mende, parce qu'il y a eu différents terrains, donc il y a eu le Forage, après le foot est resté au Forage jusqu'à 1927, après il est parti au terrain de la Vernède. La Vernède, c'était juste devant la chapelle du lycée Chaptal. Et après, donc, il y a eu la construction de Mirandol, puis après le chapitre, le Cross d'Auge. Voilà, ça reprend un peu l'histoire aussi de tous ces terrains.
D'accord. Si vous deviez, Vladimir et Christophe, garder une image de ce livre, ça serait lequel? Est-ce que si vous deviez choisir, il n'y a pas une image comme ça qui vous dit, tiens, celle-là, elle me plaît plus que les autres, même si évidemment, c'est dur de choisir.
Moi, à titre personnel, mais c'est plus par mon profil de footballeur. Moi, j'aime bien la couverture parce que la photo du gardien qu'il y a sur la page de couverture, parce que j'étais gardien de but, voilà.
C'est bien de le préciser.
Je trouve que c'est une belle photo. Ouais.
D'accord.
Moi aussi, il y a une photo, c'est très personnel. C'est une photo de mon père avec des cheveux. Donc celle-là, elle est collector. Et vraiment, elle me plaît beaucoup.
Super. Bah écoutez, on va passer à la chronique avant que Cyril s'étouffe.
Ah, pardon.
C'est l'heure de la chronique de Cyril. Cyril, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui?
Alors, bah, je vais vous parler d'une série, donc une fois n'est pas coutume. Alors, je sais déjà ce que certains vont dire. Oh là là, Cyril, tu parles encore d'une série, déjà la dernière fois avec Arcane, mais où va le monde, je vous le demande. Sauf que cette série n'a rien à voir avec Arcane, et c'est justement pour ça que je vais vous en parler. Alors cette série, c'est The Haunting of Hill House, et d'avance je m'excuse pour mon piètre accent anglais, c'est une série, d'horreur mélangée à un drame familial en quelque sorte, qui s'inspire librement de romans d'horreur à base de maisons hantées. Avant toute chose, je sais que je dis très souvent dans mes chroniques que telle chose m'a apporté plein d'émotions, du rire, des larmes, tout ça, mais là ce n'est vraiment pas la série de la grosse poilade. Cette série, elle est sortie en 2018, elle est produite par Amblin Television et Paramount Television Studio, et créée par Mike Flanagan, aussi connu pour d'autres films d'horreur tels que Jesse, qui est disponible sur Netflix si vous le souhaitez. C'est un excellent film d'horreur psychologique, même si âme sensible s'abstenir, parce qu'il ne fait vraiment pas dans la dentelle, mais il est très cool. Mais revenons à The Haunting, et laissez-moi vous parler du synopsis. Donc dans cette série, on va suivre la famille Crane, donc les deux parents, Hugh et Olivia, ainsi que leurs cinq enfants qui habitent tous dans un manoir que les parents comptent retaper pour le revendre, se faire de l'argent, et ainsi de suite. Mais un soir, Hugh embarque les enfants, complètement paniqué, et fuit la maison en laissant derrière lui sa femme, le tout dans l'incompréhension de ses enfants, encore très jeunes à ce moment-là. Et là, je vais vous parler de ce qui fait pour moi tout le charme de la série. On y suit en même temps les enfants plus tard qui ont bien grandi en essayant pour certains de comprendre ou bien d'oublier la maison et ses événements, chacun à leur façon, mais tout ça en brisant un petit peu les liens familiaux petit à petit. Et on suit en même temps quand ils sont enfants, où on peut voir déjà qu'il y avait des choses qui n'allaient pas avant le drame avec la mère. Et c'est justement ça qui fait pour moi le gros point fort de la série. D'un point de vue cinématographique, les plans sont vraiment efficaces et les transitions entre l'âge adulte et l'enfance sont vraiment d'une fluidité, mais sans faille. Ça peut vraiment vous retourner le cerveau et j'aime beaucoup ça. Et si jamais, je le précise, il y a certes de bonnes frayeurs, car horreur oblige, mais après tout, si on regarde cette série, c'est en même temps un petit peu pour ça. Mais tout est vraiment basé sur l'ambiance, en vous faisant croire que vous voyez des choses en arrière-plan. Et ce n'est pas impossible, parce que en fait, dans tout le long de la série, il y a vraiment des espèces de fantômes cachés en arrière-plan qu'on peut juste voir pendant une demi-seconde. Personnellement, j'en ai vu à peine deux, mais il paraît qu'il y en a beaucoup plus, en tout cas en parlant de la série avec mes amis qui ont également vu. Je l'ai bien compris, et le tout s'est renforcé par les performances des acteurs ayant des fois des longs monologues, mais qui sont vraiment, vraiment prenants, qui sont captivants. Et moi, en tant qu'acteur en herbe, évidemment, bah, ça m'émoustille très fort. Et si jamais, j'en profite hein, quand même, après tout, on a le droit de rêver. Si Michael Usman, qui joue Stephen Crane, passe par là, n'hésite pas à me demander mon numéro.
Voilà, le message est passé.
Mais blague à part, je vous en prie, il fait encore mauvais temps en ce moment. Alors foncez attraper une boisson chaude, un plaid, et regardez cette série si vous aimez ce genre d'univers, parce que vous le regretterez vraiment pas. Et la série a d'ailleurs une deuxième saison qui s'appelle The Haunting of Bly Manor. Je ne l'ai pas encore regardée, mais je suis vraiment plein d'espérance et je ne vais vraiment pas tarder à la regarder. En tout cas, c'est maintenant la fin de ma chronique. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Et n'oubliez pas que si ça ne va pas aujourd'hui, ça ira sûrement mieux demain.
Merci Cyril pour cette chronique. Bon, ben, âme sensible à s'abstenir, c'est ça?
Ouais.
Alors, on va revenir sur l'avenir foot loser et le foot amende plus globalement. Il y a une évolution aujourd'hui du foot en loser et amende. Est-ce que, bah, du coup, vu que vous avez vu l'éveil, maintenant avenir foot loser, quelle est l'évolution du foot aujourd'hui? Est-ce qu'il se porte bien, Vladimir? Ou Christophe?
Si tu veux commencer, le coco, je...
Je ne sais pas s'il se porte mieux ou moins bien qu'avant. Je pense que niveau lozérien, c'est un peu plus compliqué peut-être qu'à une époque. Je pense qu'il y avait plus de clubs en Lozère à ma génération, mais... Je pense que c'est lié aussi au fait qu'à l'époque, il n'y avait que le football, en fait. Depuis, beaucoup d'autres sports collectifs ou même individuels se sont ouverts à beaucoup plus de gens, avec beaucoup plus de facilité d'accès en fait. Donc du coup, voilà, enfin, forcément, au niveau des clubs des villages, on voit qu'il y a beaucoup plus d'entente qu'avant. Avant, il y avait, c'était le club du village. Hein. Maintenant, il y a beaucoup d'entente. Ouais. Après, niveau sportif, il est quasiment... Enfin, les clubs qu'on peut appeler les mieux, qui évoluent dans les divisions supérieures, c'est quasiment quand même les mêmes divisions qu'à l'époque. Donc, il n'y a pas... Il y a eu trois périodes, en fait, où le football mandois a évolué à un vraiment très très bon niveau au niveau national. Donc c'était dans les années 60 en fait, c'était ce qu'on appelait à l'époque la division d'honneur, mais c'était de la division d'honneur qui correspondait au niveau national, ça correspondait à peu près à la division 4 aujourd'hui. Donc là, pendant 5 ans, dans les années 60, il y a eu le club des Réveils Mandois qui a évolué à ce niveau-là, parce qu'ils avaient aussi bénéficié de... à Mende, il y avait le bataillon... comment on appelle ça, le BTA, le bataillon des officiers. Donc il y avait beaucoup d'Algériens en fait qui étaient en caserne ici, qui avaient un très bon niveau de football. Donc ça avait permis d'élever le niveau du foot à Mende. C'est pour ça qu'ils avaient pu évoluer 4-5 ans en division d'honneur. Après, il y a eu la période 2000-2001-2002, donc où l'Éveil Mandois avait accédé en CFA2 qui correspond au premier niveau national. Et donc, dernièrement, donc, il y a eu l'AFL qui, lui aussi, a réussi à accéder au niveau national pendant 3 ans, en 2016-2017.
Ça, c'était aussi un grand événement, aussi, pour, voilà, je suppose, donc, pour la ville.
Voilà. Après, la difficulté pour les clubs lozériens, parce que ça a été le même problème à une époque à Saint-Allemand, quand ils avaient évolué au niveau national, c'est d'arriver à se maintenir à ces niveaux-là, quoi. La difficulté est là, quoi.
Vladimir, toi, est-ce que l'évolution...
Pardon. Ouais, moi je vais rejoindre un peu ce que dit Coco, c'est que certainement, alors j'étais tout petit, peut-être pas encore là au départ, hein, quand il n'y avait que le foot. Moi j'ai connu d'autres sports quand j'étais enfant, mais c'est vrai qu'aujourd'hui l'offre elle est incroyable, hein, par rapport à quand j'étais enfant. Aujourd'hui un enfant peut pratiquer,
quasiment tous les sports, ouais, ici.
Et ce, dès 3 ou 4 ans, voilà, sur de l'éveil dans différents sports, que ce soit collectif ou individuel. J'ai le sentiment qu'il y a de moins en moins de pratiquants sur le département. Je ne sais pas quels sont les chiffres, en football en tout cas, je ne sais pas trop. Mais ce que moi, à titre personnel, je remarque, j'espère me tromper, c'est que j'ai l'impression qu'on est peut-être de moins en moins passionné en fait par le football. Qu'on va au football parce qu'il y a les copains, parce que ça fait passer le temps. Et puis, quand le jour où il fait pas beau, on va pas au football. Nous, quand on était petits, la météo, ça nous arrêtait pas. On sortait du football de club pour rentrer jouer au foot à la maison, dans le jardin, dehors, dans un parc, peu importe. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, les jeunes sont beaucoup plus sollicités, ne serait-ce que par les écrans en général, hein, où on voit beaucoup moins de jeunes qui tapent le ballon dehors. Alors, il le tape peut-être, hein, sur la PlayStation ou l'ordinateur, mais c'est pour les jeunes, en tout cas, je le vois un petit peu comme ça.
Bah justement, on va parler encore des jeunes avec une pause musicale. Tu as choisi le titre, Vladimir, ça s'appelle « Jeunes et cons » de Saez. Et c'est parti, on écoute ça maintenant.
France et je sors doucement de mes rêves. Je rentre dans la danse comme toujours. Il est 8 heures du soir, j'ai dormi tout le jour. Je me suis encore couché trop tard. Je me suis rendu sourd encore. Encore une soirée où la jeunesse France encore. Elle va bien s'amuser puisqu'ici rien n'a de sens. Alors on va danser, faire semblant d'être heureux. Gentiment se coucher, mais demain rien n'ira mieux. Puisqu'on est jeune et con, puisqu'ils sont vieux et fous, puisque des hommes crèvent sous les ponts, mais ce monde s'en fout. Puisqu'on n'est que des pions contents d'être à genoux, puisque je sais qu'un jour nous gagnerons à devenir
toujours. Il est 8 heures du soir, j'ai dormi tous les jours, mais je sais qu'on est quelques milliards à chercher l'amour encore. Encore une soirée où la jeunesse France encore, elle va bien s'amuser dans cet état d'urgence. Alors elle va danser, faire semblant d'exister. Qui sait, si l'on ferme les yeux, on vivra vieux. Puisqu'on est jeune et con, puisqu'ils sont vieux et fous, puisque des hommes crèvent sous les ponts, mais ce monde s'en fout. Puisqu'on est que des pions contents d'être à genoux, puisque je sais qu'un jour nous nous aimerons comme des fous, comme des fous.
Voilà, c'était Jeune et con de Saez. Alors on va revenir un tout petit peu encore, parce qu'on fait durer le plaisir évidemment, sur l'histoire du foot à Mende. Et il y a quelques matchs de gala, par exemple, Christophe, qui ont été un peu emblématiques, dont tu voulais un peu parler peut-être.
Oui, en fait, il y a eu quand même des clubs un peu emblématiques qui sont venus à Mende et qui avaient attiré les foules à l'époque au terrain de Mirandol surtout. Donc en 1961, il y avait l'équipe du Nîmes Olympique qui était venue. En fait, ils jouaient la finale de la Coupe de France. Et la semaine avant, ils étaient venus en oxygénation en fait, à Mende. Donc on a beaucoup de photos avec les joueurs de Barlaguer. Barlaguer, c'était le capitaine, et de Kader Firoud qui était l'entraîneur. Donc on les voit en photo sur le cos de Mende à côté de la Croix. Et donc ils avaient fait un match à Mirandol contre l'Éveil mandois. Et donc là, quand on voit les photos, on imagine que le stade était bien plein.
Ouais. Vladimir, tu as aussi un souvenir en Coupe de France, toi, qui t'a marqué un petit peu, c'est ça?
Ouais, alors j'en ai deux. Un quand j'étais petit et que la génération, donc avec Jérôme Morin, Stéphane Sora, Sébastien Churivet, avait fait une belle épopée en Coupe de France. J'ai ce souvenir-là parce que j'avais récupéré le maillot d'un joueur. Mais j'ai surtout un souvenir un peu moins bon au départ parce que mes copains qui ont fait l'épopée 2012-2013, qui s'est arrêté en 16e de finale contre le Havre, sont venus nous éliminer. Je jouais à cette époque-là à la Escanée, dans le sud de la France. Ils sont venus nous éliminer là-bas. Donc c'était sur le moment pas super sympa, voilà. Mais derrière, ils ont fait un parcours incroyable. Hein. Je me souviens avoir fait les allers-retours, moi, entre Clermont-Lérault et Mende pour venir les encourager systématiquement et faire la fête avec eux après les matchs. Mmh.
Et on va parler maintenant, du coup, pour les 100 ans du foot à Mende, de l'actualité du club, c'est-à-dire les trois jours festifs pour mettre en avant voilà, le foot à Mende, le foot dans tous ses états, en fait. On va détailler un peu cet événement. Donc, c'est trois jours, le 28, 29 et 30 avril, la soirée de clôture, donc c'est le samedi. Et on va parler d'abord de jeudi. Est-ce qu'on peut un peu détailler ce qui va arriver pour cette première journée pour le foot à Mende
En fait, donc, on avait décidé de faire, un peu pour le symbole, mais de faire une animation football sur la place du Forail, sachant que donc, ça avait été le premier terrain de football à Mende de 1920 à 1927. Donc voilà, on a prévu donc, une animation avec un terrain de football synthétique de taille, enfin pour du football 5 par 5, donc c'est un terrain qui fait 30 mètres par 20. Donc Cette animation-là va commencer le jeudi à 14h. Le matin sera consacré à la mise en place de la structure. Voilà, donc le jeudi après-midi, le vendredi 29 et le samedi 30 avril jusqu'à 16h, les différentes équipes jeunes de l'Avenir Foot Lozère vont utiliser cette structure pour faire des rencontres entre eux et en profiter. Voilà.
Est-ce qu'il y a des animations donc, pour ce jeudi? Donc il y a ce terrain synthétique, mais est-ce qu'il y a d'autres choses aussi à côté pour les gens qui souhaitent découvrir un peu le foot à monde?
Non, alors malheureusement sur ce terrain, vu la taille et la configuration, tout le monde ne pourra pas en profiter. On aurait aimé pouvoir l'ouvrir à tous ceux qui auraient voulu l'utiliser, mais voilà, ça sera malheureusement pas possible. Par contre, dans le cadre de toutes ces animations, donc on a réussi à faire venir, après une demande à la Fédération française de football, à faire venir le trophée de la Coupe du Monde qui a été remporté par la France en 2018. Oui. Voilà, donc on aura l'honneur de recevoir ce trophée. Bon, même si vous comprenez bien que c'est une réplique, hein, sachant que le vrai trophée de la Coupe du Monde, en fait, est dans un coffre à Zurich, à la FIFA. Il est sorti juste pour l'histoire. Le vrai trophée n'est sorti que pour la remise de la coupe officielle,
ah oui,
le jour de la finale. Après, il est remis sous coffre, entre guillemets. Donc voilà. Donc la fédération nous a accordé de pouvoir avoir pour nos festivités cette Coupe du Monde. Donc voilà, qui sera présent donc tous les jours. Et donc par contre, cette Coupe du Monde sera aussi présente sur le Forail lors de ces animations-là. Et a priori, les gens pourront se faire prendre une photo à côté.
Ok. Voilà. D'accord. Ça, c'est pour pendant les 3 jours, ça sera disponible. Est-ce qu'il y a des expositions, des choses comme ça, des photos, je crois?
Oui, donc il y aura donc une exposition qui sera mise en place à l'espace événement à partir du jeudi, donc jusqu'au samedi 30 avril, le jour de la soirée. Cette exposition sera basculée après à la bibliothèque Lamartine, à la médiathèque Lamartine, du 3 mai au samedi 28 mai. Donc elle sera toujours visible à la médiathèque. Juste pour revenir sur l'animation Forail, on a aussi prévu le vendredi soir pour que quelques anciens joueurs puissent en profiter, un petit tournoi vétéran, donc à quel participeront donc les vétérans de l'Avenir Foot Lozère. Voilà, on a demandé à quelques anciens clubs s'ils arriveraient aussi à remonter une équipe ou deux. Donc style le Sporting Club de Mende va essayer de trouver 5 combattants entre guillemets. L'association sportive Mendoza va essayer aussi. Voilà, c'est histoire aussi de faire un petit moment convivial avec des anciens joueurs.
Oui, le but, c'est aussi de faire des rencontres voilà, entre les nouveaux, les anciens. Vous avez des noms un peu en tête d'anciens joueurs qui seront là et qui participeront?
Alors, à cet événement-là, ce ne sera que les joueurs actuels, les vétérans qui sont restés sur Mende.
Okay.
Par contre, pour la soirée donc, du 30 avril, on a sollicité, par le bouche à oreille, un peu, par contact divers et variés, on a essayé d'avoir le plus possible d'anciens joueurs des deux clubs présents. Donc, c'est une soirée donc, qui
C'est une soirée qui démarre donc samedi toute la journée, il y a aussi des animations, c'est ça? Avant de parler de la soirée en tant que telle, mais samedi d'abord, il y a des animations. Pour tout le monde, comment ça va se passer justement cette journée?
Alors samedi, oui. Alors samedi, ça sera... Donc, déjà le samedi matin, il y aura toujours avec le concours de la médiathèque Lamartine, il y aura un concours de dessin qui sera organisé par la médiathèque, alors, qui sera accessible aux enfants de 2 à 6 ans et de 7 à 12 ans. Ça, c'est, il faudra se présenter à la médiathèque. Après l'après-midi, donc, une rencontre sera organisée entre anciens joueurs de l'Éveil Mendois, donc plutôt la génération, parce que malheureusement, on ne pouvait pas faire participer tous les anciens joueurs, que ce soit de l'Éveil Mendois, soit de l'Avenir Foot Lozère. Donc on avait décidé plutôt d'essayer de monter une équipe autour de la génération qui avait fait les divisions nationales CFA2 de l'Éveil Mendois dans les années 2000, et la génération qui avait fait l'épopée en Coupe de France de l'Avenir Foot Lozère. Donc cette rencontre aura lieu à 13h30 au stade Jean-Jacques Delmas, donc avec beaucoup d'anciens joueurs, et qui sera suivie à 16h30 d'une rencontre officielle, celle-là de l'équipe 1 de l'Avenir Foot Lozère, qui jouera en championnat contre Port-Tiragne.
Ok.
Et donc suite à cette rencontre, à 19h30 aura lieu la soirée, espace événement.
La fameuse soirée. Avant de parler, de nous donner un peu l'eau à la bouche de cette soirée, est-ce que vous pouvez nous parler de la construction de cet événement? Parce que c'était un petit peu long du coup, malheureusement, à cause du Covid. Combien de fois il a fallu reporter cet événement, Vladimir?
Alors moi, l'événement a été mis en germe, Coco le disait, il s'est rapproché déjà en 2018 de Bernard Vanel pour essayer de matérialiser son idée du livre. Moi, quand je suis arrivé donc au club en tant que dirigeant, tout était déjà ficelé. Pour 2020. Ça a déjà été reporté à ce moment-là. On est arrivé en plein Covid, donc une première fois à ce moment-là, puis une seconde fois reporté.
La première soirée était prévue le samedi 8 mai 2020. Donc on avait tout préparé, les affiches, tout a été calé. Les différents intervenants étaient prêts aussi. Quand le confinement est arrivé, donc on a été obligé de tout annuler. Quand ça s'était un peu calmé, donc fin 2020, on avait tout recalé pour le 9 mai 2021. Donc pareil,
rebelote,
toutes les réservations, donc on a tout réannulé. Et donc là voilà, donc l'été dernier, un peu plus tard, parce qu'on a attendu quand même que la situation... on a vraiment redécidé de lancer ces animations en début d'année, quand le Covid s'est un peu atténué.
Vous êtes combien, vous savez à peu près combien il y a de bénévoles pour cet événement? Vous êtes combien à travailler dessus?
Il n'y a pas plus de bénévoles là qu'au quotidien, mais après...
Vous êtes quand même... vous êtes une dizaine à travailler, un noyau dur, on va dire, à travailler sur ce même...
Un petit peu moins. Un petit peu moins. Par contre, au moment de l'événement, on sera plus nombreux.
Oui, d'accord.
Coco est un peu dans l'humilité quand il dit un petit peu moins. C'est pour ne pas dire qu'il est... pas seul maître d'œuvre, mais il fait beaucoup de choses vraiment pour cet événement. Et nous, on est très, très attentifs, évidemment, à ce qu'il met en place. On espère que ce jour-là, oui, il y aura forcément plus de bénévoles et de gens qui vont donner la main que ce qu'il y en a au quotidien.
Alors, avant de continuer à parler de cet événement, on va faire une petite pause avec Eric, qui n'est pas là, mais il a voulu nous faire une petite chronique, alors c'est parti, on va l'écouter tout de suite.
Bonjour les gens. Alors, je ne sais pas pour vous, mais chez moi, on utilise souvent des expressions pour donner des grandes leçons de vie. Genre, que le vent te pousse et que le cul te pèle. Ou encore, le roi disait, nous voulons. Et en ce moment, celle-là, je l'utilise tout le temps, parce que tout le monde, ou presque, commence ses phrases par « moi je ». Et moi je. Alors, le collectif, plus personne ne semble connaître. C'est le moi qui compte. Mais en même temps, si on pouvait éviter trop réfléchir et que quelqu'un pouvait prendre les décisions à notre place ou nous donner des éléments pour pouvoir choisir ce qui est le mieux pour nous sans avoir à trop forcer, ce serait pas mal. Ainsi, nous avons appris à tout noter et à vérifier les notes pour tout, pour une grande partie de notre quotidien, mais c'est pour notre bien de tout noter. Avant, on avait juste un pouce levé ou un pouce baissé pour dire j'aime ou je n'aime pas une vidéo de petit chat ou le dernier but de l'AFL filmé d'un smartphone. Mais maintenant, on peut même noter la propreté des toilettes dans les stations-service des autoroutes, son livreur Uber Eats. Enfin ça, je l'ai juste vu à la télé parce que les livreurs Uber Eats en Lozère, comment dire que... Bon, en foot, ils connaissent ça aussi, les notes dans le journal de l'équipe, pour savoir si tel ou tel joueur a fait un bon match. Les joueurs en parlent dans le vestiaire, les supporters aussi se mettent à noter les joueurs et attention à tes notes. Si à la fin de la saison tu as la moyenne, je te re-signe ton contrat et tu as la prime qui va avec. Si tu as une mauvaise note, tu n'es plus bon qu'appeler les oranges. Bon après, heureusement qu'on ne note pas les chroniques de tout le monde dans cette émission, parce que certains ne passeraient peut-être pas le mercato. Ainsi maintenant, presque tout est noté jusqu'à l'absurdi. Ouais, comme le Nutri-Score. Vous savez, c'est ce logo à poser sur les produits pré-emballés, qui vise à renseigner les ignorants consommateurs que nous sommes sur la valeur nutritionnelle, et seulement la valeur nutritionnelle des produits comestibles. Ils serviraient donc à améliorer nos comportements alimentaires, parce qu'on n'est pas capable de le faire tout seul. Or, à y regarder de plus près, il met des bonnes notes. Youpi aux produits bourrés d'additifs industriels, youpi les exhausteurs de goût, et encore youpi les conservateurs bien chimiques, bien dégueulasses. mais sans valeur nutritionnelle, donc qui ne font pas grossir, même s'ils te pourrissent la santé. Alors qu'un produit avec du gras, naturellement présent, je dis bien naturellement, hein, aura une mauvaise note. Bouh, le naturel, bouh, le gras, mauvaise note, tiens ! Prenez le Roquefort. On va changer un peu la recette. Parce que bon, du lait cru avec du gras naturel qui aurait vieilli dans des caves naturelles selon une méthode traditionnelle, c'est vachement bon pour du lait de brebis, mais ça mérite le bonnet d'âne. Alors tu fabriques un fromage au lait écrémé, pasteurisé, avec des bons petits additifs pour lui donner un peu de goût quand même, eh bien ce sera dégueulasse, mais au moins il aura une jolie image avec une jolie couleur verte. Bienvenue en absurdie, je vous dis, si on y réfléchit bien, le Nutri-Score, c'est un peu l'AOP des industriels qui veulent se verdir une image avec leur jolie couleur verte au Nutri-Score. Un autre exemple. Je ne sais pas si vous buvez des sodas légers. Eh bien, vous pouvez continuer, parce que comme il faut comparer des quantités aussi, sachez que votre verre de soda bien chimique aura forcément une meilleure note que le même verre d'huile d'olive AOP. Parce que bon, c'est bien connu, on boit l'huile d'olive par verre de 25 centilitres. Du reste, en parlant de boire un coup, faudra peut-être changer le nom de l'émission, vu qu'Adèle ne nous sert jamais un bon verre d'huile de vidange depuis le début de la saison.
Bon ben voilà, je pense que moralité de cette histoire, de cette chronique, changer le nom de l'émission par peut-être le bon gras, c'est la vie, je ne sais pas. Bref, pour digérer tout ça, on va revenir sur deux foot hein, quand même pour faire un peu de sport. Cette soirée de clôture pour ces trois jours du foot à Mende, des 100 ans du foot à Mende, comment ça va se passer? Donnez-nous un peu envie, l'eau à la bouche de cette soirée, qu'est-ce qu'il va y avoir?
Donc c'est une soirée qui se va se dérouler donc à l'espace événement. Voilà, donc il y aura un apéritif, bien sûr. Voilà, il y aura apéritif, un repas assis, hein, donc qui se clôturera par une soirée dansante qui sera animée par Luigi. Voilà, donc tout je pense pour passer un bon moment. On s'achemine vers une participation d'à peu près 300 personnes à minima. Voilà, donc je pense que ce sera une belle fête avec la présence de beaucoup d'anciens, donc de jeunes aussi, hein, mais voilà, on a quand même réussi à faire venir des joueurs quand même un peu emblématiques de l'histoire du foot à Mende. Hein. Je pense à Tamania, au frère Tamania, Paco Vicente, voilà, les anciens qui connaissent ces noms-là, c'est des noms qui ont marqué le foot à Mende. Ouais. Voilà, on aura aussi la présence normalement de Roger Pic. Roger Pic, en fait, pour l'anecdote, c'est à ce jour le licencié, enfin, le footballeur mandois le plus ancien, en fait. Il a 92 ans, Roger, donc normalement, il sera présent avec nous.
Vladimir, tu peux nous rappeler un peu comment on fait pour, si on veut s'inscrire encore, parce qu'on peut encore s'inscrire à la soirée.
Oui, tout à fait, jusqu'à vendredi, donc vendredi 15, il y a deux possibilités. La première, c'est en passant par notre site internet, donc il y a un lien pour pouvoir s'inscrire directement en ligne. Donc l'inscription sera validée évidemment à réception du paiement hein, pour le repas. Et l'autre possibilité, c'est de passer directement au siège du club et de remplir un petit coupon d'inscription avec les informations utiles pour pouvoir participer à cette soirée, évidemment.
Et également à l'office du tourisme.
Ok. C'est combien en tout la soirée?
25 euros.
Par personne.
C'est 25 euros par personne avec donc l'apéritif, le repas le repas de traiteur hein, et donc la soirée dansante derrière.
Alors qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce repas justement un peu? Est-ce qu'on a le droit de dire
Je sais pas si on a le droit à
couper. Non, le menu après, ça sera un bon menu, ça sera préparé par le traiteur de les relais d'Écosse à Chanac. Voilà.
Donc, d'accord.
En général. Ça sera bon. Jamais trop déçu quand c'est lui qui s'en occupe.
Super. Alors, pour finir, cette dernière partie pour Happy Hour, on parle toujours des 100 ans du foot en Lozère. Tu nous as déjà parlé de quelques noms emblématiques qui seront là. Toi, Vladimir, est-ce qu'il y a des anciens joueurs qui te viennent en tête, que tu aimes particulièrement?
Ouais, alors moi j'ai pas la liste comme Marco de tous les inscrits. Par contre, il y a des joueurs que j'espère voir. Je parlais tout à l'heure de la génération qui avait fait un parcours en Coupe de France et qui était montée en CFA2 dans tout début des années 2000. J'espère, déjà j'ai la chance de pouvoir participer au match des anciens le samedi après-midi, j'espère jouer contre eux déjà à ce moment-là, et surtout les retrouver en soirée, parce que c'était une belle équipe de bringers, donc se remémorer des souvenirs, c'était mes éducateurs à l'école de foot, donc c'était un petit peu nos idoles, hein, quand on était petits, nous c'était joueurs de l'équipe première, c'était les stars, quoi. Donc j'espère pouvoir les retrouver et se remémorer un petit peu là, les souvenirs, voir un petit peu le décalage qu'il y avait entre moi et jeune de l'école de foot et eux joueurs de l'équipe première, voire aujourd'hui on est tous adultes, j'espère en retrouver certains. Ouais. Jérôme Cabanel pour le citer.
Pour rassurer Vladimir, il y en aura beaucoup de cette génération-là. Malheureusement, il n'y aura pas Jérôme. Mais...
Ah merde.
Vladimir, toi, en tant que président, justement, comme tu es passé par tout, en fait, tous les niveaux en Lozère et ailleurs, l'évolution, en tout cas en Lozère, du foot, tu la vois comment? On en a déjà parlé tout à l'heure, mais là, en tant que président, ton œil de président, comment il le voit?
Oui, il y a des choses que je comprends pas, mais c'est depuis longtemps maintenant, y a beaucoup de choses qui sont imposées un petit peu au club. Nous, on est dans l'hyper-ruralité, c'est très très compliqué de former des équipes, notamment chez les jeunes, par génération d'âge. Quand j'étais adolescent, on avait des équipes sur deux années d'âge. Donc là, il faut avoir une génération d'âge pour chacun, donc moins de 13 ans, moins de 14, moins de 15, etc. Donc c'est parfois un petit peu compliqué de monter des effectifs. Il y a des obligations aussi vis-à-vis des instances, hein, donc un certain nombre d'arbitres au club, les diplômes qui sont obligatoires, hein, pour les éducateurs. Donc c'est des heures et des heures de formation, hein, c'est des choses qui sont très très compliquées à gérer pour des clubs. Alors je dis nous mandent, j'en entends déjà qui vont me dire mais mandent vous êtes bien de ce côté-là, c'est la grande ville du département, etc. Mais quand là je parle du football lozérien en général, aujourd'hui il y a des contraintes administratives, il y a des contraintes d'effectifs, et c'est pas évident pour tous les clubs de pouvoir y répondre. Donc ça, c'est quelque chose, moi, qui me dérange un petit peu. Après, ce qui me plaît en revanche dans le football d'aujourd'hui, c'est le fait que les guerres de clochers qui me semblaient beaucoup plus visibles à l'époque s'estompent un petit peu. Aujourd'hui, nous, à Mende, on est très proche du Val d'Aunès, du Val d'Aou et de l'AS Badarou notamment, qui sont les deux clubs les plus proches sur la Comcom. Ça, c'est des choses qui se faisaient pas forcément il y a plusieurs années. Donc je pense qu'il faut que le foot lozérien continue à se serrer les coudes et à avancer ensemble. Il y a aussi le fait que les clubs lozériens aient basculé en Aveyron depuis quelques années maintenant, qui facilite, je pense, les choses au quotidien des petits clubs, parce qu'avant on se déplaçait dans le Gard dès qu'on était sur de l'interdistrict. Donc on se déplaçait dans le Gard. Aujourd'hui ça se fait en Aveyron, il y a des poules mixées entre clubs aveyronnais, clubs lozériens. Donc ça me paraît plus simple en termes d'organisation en tout cas, et moins onéreux pour les clubs de se déplacer.
Aujourd'hui, donc, on rappelle, vous évoluez dans quelle division? Régionale 1, c'est ça?
C'est ça. Donc on est sur l'équipe Fagnon au plus haut niveau régional, l'équipe réserve qui est au deuxième niveau régional, et l'équipe 3, donc senior, qui est au niveau départemental 3, sur une poule mixée à Véran-Lozère. Et chez les jeunes, on a toutes nos équipes de jeunes, de U14 à U18, qui sont au plus haut niveau régional.
D'accord. Ça se passe bien la saison, là? Comment tu vois la fin de saison?
On aimerait que ça se passe mieux, toujours. Hein, mais on a fait un début de saison très intéressant avec un super match en Coupe de France contre Alès, qui est une grosse écurie qui écrase un petit peu le championnat national 3 au-dessus. Derrière, on a eu un petit coup de mou. Là, aujourd'hui, on est dans la lutte pour se maintenir à ce niveau-là. C'est très important, il reste 6 matchs. Pour l'équipe première, pour l'équipe réserve, il reste des matchs également, c'est un peu moins bien embarqué. Moi, je suis persuadé que les garçons et le staff technique vont faire le nécessaire et continuer à véhiculer les valeurs fortes de l'avenir foot lozère pour maintenir le club à ce niveau-là, parce que c'est super important.
Prochain match pour l'équipe, les seniors, c'est...
Se déplace le week-end du 24 avril à Vendargues. Et puis après, donc, le week-end du 30, le samedi 30, on recevra Portiragne en ouverture de la soirée festive.
Ah d'accord, ok, magnifique. Bah, super, bah, écoutez, on va te faire une dernière info, c'est le... Bon, c'est pas pareil, mais vous avez quand même votre loto lundi, c'est ça ?
Ouais.
Le loto de la FL.
Les
sous que vous allez recevoir, c'est aussi pour la soirée ou c'est autre chose encore ?
Non, c'est complètement différent.
C'est complètement différent ? D'accord.
Après, ça fait partie quand même du budget du club. Hein.
Oui, oui, bien sûr. Donc il y a un loto, c'est à quelle heure ?
C'est à 14h, donc ouverture des portes à, ouverture des portes à 13h. À 13h lundi. Voilà, c'est un loto qui a été reporté. Généralement, le loto du club se fait à Noël. Mais là, avec le Covid, ben, une fois de plus, hein, on a décalé. Donc, il y aura ce loto le lundi 18 à 14h, en effet.
À la Halle Saint-Jean,
super. Mais écoutez, messieurs, merci beaucoup d'être venus dans l'émission pour parler de l'AFL et puis du foot à Mende. Merci, Vladimir.
Merci à vous.
Merci Christophe, secrétaire général aussi, d'être venu. Merci à Cyril d'être venu et à Eric, bon, qui n'est pas là. Mais voilà, on rappelle, les 100 ans du foot à Mende se déroulera du jeudi 28 au samedi 30 avril à Mende. Vous pouvez retrouver Happy Hour en podcast sur 48FM et l'émission sera rediffusée jeudi à 19h. Alors on termine cette émission avec une chanson, on reste toujours dans le thème du foot évidemment, avec le groupe Zebda et le titre Cameroun. Allez, salut.
Un symbole. Courir est une chose, marquer en est une autre. Jouer, voilà le mot, si possible, avec les autres. J'exprime la vie qui vaut quand lui souffle dans le dos. Et j'ajoute un dicton.
Chasser le naturel, il revient au ballon. Vite!
Le même écrit retentit dans un couffin pour certains. Quand on n'a pas de grandi, retentit dans un stade. Et si dans la vie on pose une candidature. Et toi sur le terrain, tu vas chercher une écriture.
Le ballon, c'est ta plume, ta feuille le bitume. Tu es comme une fable, toi le lion indomptable.
Nous on choisit celui qui régale et rigole. Choisis celui qui régale et rigole.
Cameroun, 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 Cameroun.
Redoutable en situation d'infériorité, tu vas garder un faible pour les coups désespérés.
Crochet court, fin de raid, étalonnade. Sans les trois mamelles d'une belle escapade.
Tu as poussé tes ailes, c'est le coup de l'échelle. Il y a le football et il y a le football.
Nous on choisit celui qui régale.
Celui qui régale et rigole.
Cameroun, 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 Cameroun.
À ce jeu, le délit de sa gueule n'existe pas. À part quelques égoïstes ici, on ne joue pas pour soi. Quelle que soit ta couleur, un jour un des costumes clairs. S'approcheront pour faire un chèque de métaux à du fer.
Nous le bon moteur, on trouve aussi des entraîneurs.
Mais quel que soit leur style, il faut bien qu'ils installent le respect. Celui de soi, celui de ses aînés.
Cameroun.